Voilà. Eh bien, comme vous le savez, nous avons entrepris de parcourir l'évangile de Marc semaine après semaine. Des fois, il y a un peu d'espace entre deux messages. Mais nous sommes donc maintenant arrivés au chapitre 6, la fin du chapitre 6. Et c'est donc le passage que j'ai choisi ce matin. Et il est question de nouveau, traverser ce lac de Tibériade ou cette mer de Galilée ou ce lac de Génézareth, hein, tous les. C'est le même, différentes manières d'appeler ce même lieu. Et ça tombe bien parce que il y a quelques mois, au mois de février, j'avais eu l'occasion de préparer un message sur déjà la traversée du lac, mais dans Marc 4, on y reviendra, où les disciples subissaient une forte tempête avec Jésus qui dormait à leur bord. Le passage d'aujourd'hui. Le titre que vous avez peut-être dans vos Bibles et l'élément phare que l'on en retient, c'est que Jésus marche sur la mer. Ce fameux passage où Jésus marche sur l'eau. Mais vous allez voir que le passage est bien plus riche que simplement de voir Jésus marcher sur l'eau, ce qui est un prodige étonnant, mais vous allez voir que c'est finalement peut-être pas le cœur du sujet dans ce passage. Alors, nous allons le lire, mais peut-être avant de le lire, juste repréciser le contexte, pour ceux qui n'étaient pas forcément là les dimanches derniers ou qui ont oublié. Dans le chapitre 6, dans lequel nous sommes, dans le passage précédent, donc les versets 30 à 44, les 12 disciples se trouvent revenir auprès de Jésus, après qu'il les ait envoyés en mission. Jésus avait envoyé ses disciples en mission deux par deux, en leur demandant de proclamer la bonne nouvelle, et puis ils ont chassé des démons, ils ont fait des guérisons. Et là, ils sont revenus vers Jésus, visiblement très fatigués, dans un contexte où il y a beaucoup d'agitation, où ils cherchent à se mettre au calme, mais en fait, la foule les rattrape. Ils sont montés dans la barque pour essayer donc d'échapper à la foule, mais la foule les retrouve, et Jésus, le texte nous dit, pris de pitié, les voyant comme des brebis sans berger, se met à les enseigner. Et puis, au terme de cet enseignement, arrive la fin de la journée, et au lieu de renvoyer toutes ces très nombreuses personnes, hein, plus de 5 000 personnes, Jésus décide de les faire asseoir et de les nourrir par l'intermédiaire, avec la contribution des apôtres, à l'aide des fameux 5 pains et 2 poissons seulement dont disposent les disciples. Voilà, donc. Le récit se termine, et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers, et aussi ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc on peut compter probablement au moins 10 000 personnes, ce qui est considérable. Et donc nous en arrivons au passage du jour, à partir du verset 45, et je vais aller jusqu'à la fin du chapitre 6. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Et le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui seul à terre. Voyant qu'il se battait à ramer contre le vent, qui leur était contraire vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous, et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla. Il leur dit, Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, leur cœur était endurci. Après la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth, et ils abordèrent. Dès qu'ils eurent débarqué, les gens reconnurent Jésus, ils parcoururent tout le pays, et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places, on le suppliait de les laisser toucher seulement la frange de son vêtement. Et ceux qui le touchaient étaient tous sauvés. Alors, j'aime bien démarrer par la question du lieu. Savoir où se passe notre récit, ça aide un peu à se fixer des idées et à appréhender un peu mieux ce qui est raconté. Mais le problème, c'est que c'est pas très facile, en fait, de situer le lieu. Bien sûr, ça va se passer sur le lac, mais on sait pas exactement le passage précédent sur la multiplication des pains, où est-ce qu'il a eu lieu. Probablement, on nous dit dans un endroit désert, on sait que c'est sur les bords du lac, donc probablement quelque part par là, plutôt sur cette rive-là, puisque de l'autre côté, on est en terre païenne. Jésus dit à ses disciples de partir sur l'autre rive vers Bethsaïda. Donc Bethsaïda, vous l'avez ici. Donc il y a effectivement une traversée à faire. Mais, je ne sais pas si vous l'avez noté, au verset 53 que nous avons lu, le verset signale que après la traversée, il touche terre à Génézareth, pas du tout Bethsaïda. Donc j'ai lu différents commentaires, les gens pensent que ces deux textes qui ont été juxtaposés sans trop souci de lieu, ça me satisfait moyennement comme explication. L'hypothèse que je vous propose, ça changera pas énormément la teneur du commentaire que je vais faire, mais l'hypothèse que je vous propose, c'est que en fait, Jésus leur indique de partir vers Bethsaïda, mais en cours de route, ils ont bifurqué pour arriver à Génézareth. Pourquoi ? Ben peut-être parce que les événements vont changer la tournure des choses, peut-être que la traversée est trop longue. Mais quelque chose qui me conforte là-dedans, c'est que ils vont finalement aller à Bethsaïda, mais ce sera raconté dans le chapitre 8 de Marc. Il y aura une deuxième multiplication des pains. Jésus fait ce miracle une deuxième fois. Et à l'issue de cette deuxième multiplication des pains, ils finiront par aller dans cette fameuse ville. Mais pour le moment, on nous dit qu'ils débarquent à Génézareth, donc voilà, je vous soumets comme hypothèse que ça ne s'est pas passé comme forcément comme prévu. Ouais, ça reste mon interprétation personnelle au regard des événements que j'ai pu trouver dans le texte. Alors, je vous rappelle aussi que ce lac, hein, il fait 13 km de large, donc les distances parcourues dessus sont conséquentes, et ça nécessite plusieurs heures hein, de traversée. Ayons ça en tête aussi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du message que j'ai amené en février, mais je vais partir du principe que vous avez besoin d'un petit rappel du texte, parce que c'est intéressant de comparer les deux récits. Dans les deux récits, ça démarre avec Jésus qui a enseigné les foules toute la journée, le soir arrive, et Jésus demande à ses disciples de traverser le lac. Ok. Alors, pour vous aider, je vais vous mettre ça à l'écran. Donc, dans le récit de la tempête apaisée de Marc 4, à gauche, et puis notre récit d'aujourd'hui, en Marc 6. Alors, première petite différence, c'est peut-être un détail, mais c'est intéressant de le remarquer. Il y avait une formule étrange dans le récit de Marc 4, où les disciples emmènent Jésus dans la barque. C'est le terme qui est employé dans le récit. C'est-à-dire, un peu, ils embarquent Jésus, littéralement. Ils l'emmènent avec eux dans la barque. Ici, c'est Jésus, il oblige les disciples à monter dans la barque et à monter sans lui. Ce qui fait que dans Marc 4, Jésus, il est à bord de la barque et on nous dit qu'il dort. Ici, Jésus, il est à terre et il veille. Il est en prière. Que se passe-t-il dans la première traversée ? Eh bien, il y a une violente tempête. Les disciples ont l'impression qu'ils vont mourir. Ils sont complètement paniqués. Ils crient à Dieu. Ils réveillent Jésus même. Donc une violente tempête. Alors qu'ici, on nous parle simplement d'un vent contraire. Un vent contraire, ça complique la navigation. Mais il n'y a pas de danger. Ce qui nous guette plutôt, c'est la fatigue ou le découragement. Dans le premier récit, les disciples donc crient à Jésus, le réveillent de manière brutale. Ici, c'est Jésus qui rejoint les disciples. Dans le premier récit, Jésus ordonne avec autorité au vent de se calmer, en disant « Silence, tais-toi !» Ici, c'est sa seule présence qui calme le vent. Et puis, le récit se termine dans le premier cas avec une arrivée en terre païenne, où ils sont très mal accueillis par une personne démoniaque et puis par les habitants qui lui demandent de partir après, hein, donc un accueil plutôt hostile. Alors qu'ici, il arrive en territoire juif, à Génézareth, on l'a vu, et avec un accueil très enthousiaste, où les gens le reconnaissent, lui amènent des malades pour qu'il les guérisse. Donc, l'arrivée est aussi très différente. Alors, voilà, ça nous amène déjà à réaliser une première chose, c'est que il peut y avoir des situations qui se ressemblent, mais qui sont en fait toutes différentes, et le mode opératoire de Jésus, le mode opératoire de Dieu, c'est pas une méthode qui se répète systématiquement. Non, non. Chaque situation, Jésus agit de manière différente. L'Esprit nous conduit de manière différente. Alors, je vous amène, avec ce comparatif, je voudrais attirer votre attention sur trois curiosités de ce récit. Trois éléments, peut-être que vous les avez notés à la lecture. Et on va revenir dessus rapidement. Alors, une première curiosité, c'est dans le premier verset que j'ai lu, « Aussitôt Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Jésus oblige ses disciples, il les contraint. C'est vraiment ça, je me suis posé la question si ça venait de traduction que j'utilisais, mais non, le verbe qui est employé dans le texte grec, « anagkazo », je ne parle pas grec, mais c'est comme ça qu'on peut le lire en français, c'est un mot qui est assez rare dans le Nouveau Testament et qui signifie vraiment obliger, contraindre, forcer. Il y a vraiment cette idée de contrainte. C'est un ordre de Jésus, ce n'est pas négociable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jésus les force ? Bien, l'explication qui me paraît la plus naturelle, c'est que les disciples, ils n'avaient probablement pas envie de se séparer de Jésus. D'une part, ils viennent de le retrouver après être partis en mission, donc ils sont peut-être tentés de lui dire « Reste avec nous hein, !» C'est comme ces paroles des disciples d'Emmaüs dans Luc 24, « Reste avec nous !» On est bien avec toi, Jésus, reste avec nous. Et puis, d'autre part, je me demande si, comme vous et comme moi ce matin, ils ne gardent pas un souvenir du récit précédent. Ils sont sûrement un peu apeurés à l'idée de traverser à nouveau le lac de nuit, dans les conditions où ils ont vécu la tempête la dernière fois. C'est peut-être qu'il y a besoin de les pousser un peu pour qu'ils y aillent. Voilà. Mais malgré tous ces éléments, Jésus, il en a décidé autrement. Lui, il restera à terre, et eux le précéderont sur l'autre rive. Alors, pourquoi il en décide comme ça ? Pourquoi cette séparation ? Est-ce que Jésus a besoin d'être seul pour prier, puisque c'est ce qu'il va faire ? Ou bien, est-ce qu'il y a une intention ? Est-ce que, en leur demandant de partir seul, Jésus avait déjà une idée de ce qui allait se passer et de ce qui allait attendre les disciples ? C'est très souvent, dans les évangiles, on est tenté de se demander si Jésus il agit par calcul, en ayant d'emblée l'idée de ce qui arrivera, ou bien s'il se laisse guider par les événements et il réalise la volonté de Dieu. À mon sens, les deux lectures sont possibles, hein, puisqu'il est fils de Dieu, donc a priori, il connaît beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais d'habitude, je suis plutôt partisan de la seconde interprétation, c'est-à-dire de penser que Jésus il se laisse guider par les événements. C'est d'ailleurs dans le récit de la multiplication des pains ce qui semble se passer. Dans le récit de Marc, on voit que Jésus, il s'appuie, il utilise les circonstances, mais il ne les provoque pas vraiment. Et puis, ça me semble aussi plus conforme à la manière dont la Bible présente la souveraineté de Dieu. Rien n'échappe à son contrôle, tout finit par prendre la direction voulue par Dieu, mais ça n'empêche pas les hommes de garder un pouvoir d'initiative, et ça n'empêche pas non plus le malin de contrarier, en tout cas c'est ce qu'il croit, les plans de Dieu. Il y a une formule que j'aime bien, qu'un prêtre que j'avais connu a cité plusieurs fois, « Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. » Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. Je trouve que ça donne bien cette idée que tout est tenu par Dieu, malgré tout, ça n'empêche pas que nous fassions des détours, nous ayons aussi notre part d'initiative. Donc voilà, d'ordinaire, je pense que Jésus est plutôt à se servir des circonstances comme un matériau plutôt que de les provoquer. Mais on voit quand même que tout au long de ce chapitre 6 de Marc, Jésus, il se soucie de mettre ses disciples en action. Il y a déjà le verset 12, il les a envoyés en mission, deux par deux, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas, il les a vraiment envoyés en mission et ça a sûrement duré plusieurs semaines. Et puis, dans le récit de la multiplication des pains, que nous n'avons pas relu, mais que vous connaissez, les disciples y tiennent une part inhabituellement active. D'habitude, Jésus fait des miracles, il agit de sa propre initiative et tout s'accomplit, mais les disciples, ils sont plutôt spectateurs. Là, les disciples, ils prennent une part active à ce qui se passe. Jésus leur dit explicitement « Donnez-leur vous-même à manger. » Et puis après, ce sont les disciples qui placent les gens et qui distribuent la nourriture. Donc, qu'il y ait un calcul ou pas de la part de Jésus, c'est assez clair que Jésus veut apprendre quelque chose à ses disciples. Voilà. Et donc, par rapport à une, si je reviens à trois curiosités, la deuxième curiosité, c'est bien entendu le fait que Jésus marche sur l'eau. C'est le seul passage que nous avons d'un tel prodige, on va dire. Il est repris dans trois évangiles sur quatre, dont l'évangile de Jean, qui souvent l'évangile de Jean est différent des trois autres, mais là, même dans l'évangile de Jean, c'est relaté. Donc c'est vraiment un miracle qui est particulièrement marquant. Et souvent, quand on discute avec nos contemporains, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de culture religieuse, la seule chose qu'ils sont capables de dire à Jésus, c'est qu'il a changé l'eau en vin, et puis qu'il a marché sur l'eau. C'est souvent les choses qui ressortent de manière vraiment marquante, caricaturale. Alors ça a l'air sensationnel, ça a l'air épatant, mais j'espère que vous l'avez noté ici dans le contexte du récit, l'événement il a lieu de nuit, au milieu d'un grand lac, et avec seulement les 12 disciples pour seuls témoins. Donc on n'est pas dans quelque chose de sensationnel, quelque chose qui est fait pour épater les foules. Jésus fait ça vraiment dans un contexte très confidentiel. Alors, évidemment, on va se demander pourquoi Jésus il accomplit une chose pareille. Déjà, il n'y a pas de nécessité vitale de rejoindre ses disciples. Contrairement au récit de la tempête, ils ne sont pas menacés. Voilà, il y a du vent, la mer est un peu agitée par le vent, mais rien de problématique. Les disciples ont l'air de galérer, hein, au sens propre, mais ils avancent. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que l'intervention de Jésus qui les rejoint, ça a lieu à quel moment? On nous dit vers la fin de la nuit, dans la traduction que je vous ai lue. Mais dans d'autres traductions, on dit vers la quatrième veille de la nuit. Est-ce que vous savez à quel moment ça correspond? Quatrième veille de la nuit, si c'est la quatrième, c'est qu'il s'est déjà écoulé du temps. C'est en fait entre 3 et 6 heures du matin. Et à ce moment-là, ils sont où les disciples? Eh bien, ils sont déjà au milieu du lac, nous dit le texte. Dans l'évangile de Jean, on indique même qu'ils ont ramé 25 à 30 stades, donc c'est à peu près 5 kilomètres. Donc ils sont vraiment au milieu du lac, au moment où Jésus les rejoint. Ils n'ont pas juste quitté la côte. Hein. Donc ça fait un bon moment qu'ils bataillent, et puis, à partir du moment où vous êtes au milieu du lac, vous n'avez plus le choix. Vous pouvez changer de direction, mais il faudra au minimum refaire la même distance. Donc il y a encore beaucoup d'efforts devant eux. La côte est désormais bien loin. Et puis, rappelons-nous dans quel état de fatigue les disciples devaient être, hein, au point que Jésus leur prescrive de se reposer sans qu'ils n'y goûtent vraiment. Je vous ai pas mis l'extrait sur le diapo, mais je vous le lis. Dans verset 31 à 33, Jésus dit à ses disciples « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient même pas le temps de manger. Même pas le temps de manger. Du coup, les disciples partent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. On a vraiment l'image de disciples qui sont harassés, fatigués, et qu'au moment où ils veulent se reposer, les foules leur courent après, quoi. Donc, on est dans une situation où il n'y a pas de nécessité vitale, mais il y a quand même une grosse fatigue et un gros risque de découragement. Et Jésus le voit. Ce que nous dit le texte, Je cherche le verset. Voyant qu'il se battait à ramer contre le vent. Jésus le voit. Alors, on nous dit que Jésus est sur la côte, sur la montagne. Donc, probablement, il peut les voir visuellement, mais si c'est au milieu du lac, ça commence à faire loin. Le verbe qui est employé ici, en fait, c'est le verbe grec eido. C'est un verbe qui veut dire voir, visuellement, mais qui veut dire aussi savoir et connaître. Et je pense que c'est probablement davantage dans la prière, et parce que Jésus est dans cette attitude de prière, de relation à Dieu le Père, qu'il est capable de voir ce qui se passe pour les disciples. Beaucoup plus que juste voir visuellement, comme s'il était sur la côte et qu'il les surveillait. Mais donc Jésus sait dans quelle situation ils sont, et s'il a cette connaissance-là, on peut imaginer qu'il le sait vraiment en profondeur. Il sait dans quel état d'esprit ils sont. Et donc Jésus décide d'agir, d'une part pour les aider concrètement, mais aussi probablement pour les aider à faire grandir leur foi, à faire grandir la connaissance qu'ils ont de qui il est vraiment. Alors je me suis demandé par quel autre moyen Jésus aurait pu intervenir. Il aurait pu faire tomber le vent à distance, après tout. Mais dans la mesure où les disciples, on ne dit pas qu'ils étaient en train de prier, qu'ils n'étaient pas en train de demander quoi que ce soit, ben, si le vent tombait, ils ne l'auraient pas forcément attribué à Dieu, et encore moins à Jésus. Donc ça les aurait soulagés, mais ça n'aurait pas été un enseignement pour eux. On peut se dire que Jésus, il aurait pu leur mettre à cœur des paroles d'encouragement, comme un psaume, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous avons dit à quel point les psaumes pouvaient nous faire du bien. Mais ça, avoir à cœur un psaume, des paroles d'encouragement, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une prérogative de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint ne les a pas encore touchés à ce stade de l'histoire. Donc venir les rejoindre en personne, c'est finalement une option qui paraît plutôt raisonnable. Non ? Alors, pour les rejoindre en personne, il aurait pu voler, il aurait pu simplement apparaître directement. Mais nous croyons en Jésus comme fils de Dieu, certes, mais aussi comme en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, Jésus n'est pas un surhomme, pas Superman. Hein. Et puis, bien sûr, après sa résurrection, il y a des récits où Jésus apparaît dans une pièce fermée. Mais là, à ce stade de l'histoire, encore une fois, son corps n'est pas encore le corps glorieux qu'il aura à sa résurrection. Bref, Jésus choisit de marcher, de venir à la rencontre de ses disciples en difficulté de manière simple, bien que un peu surnaturelle quand même. Choisit de se faire reconnaître par eux d'une manière toute nouvelle. Et j'en viens donc à ma troisième curiosité. Là encore, je ne sais pas si vous avez noté ce verset, mais le verset 52 est un peu étrange. Il nous dit, les disciples étaient, donc après que Jésus les ait rejoints, ils étaient extrêmement bouleversés. Ça nous semble logique, hein, ils ont cru voir un fantôme, donc ouais. Mais en effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, leur cœur était endurci. Qu'est-ce que l'affaire des pains vient faire dans ce récit qui, a priori, n'a rien à voir ? Eh bien, puisque Marc, donc l'auteur du récit, fait un lien très clair, je me suis dit qu'il y avait peut-être une clé à chercher à ce niveau-là. Donc j'ai décidé d'aller regarder de plus près, et voici une petite comparaison qu'on peut faire entre les deux récits. Deuxième tableau de cette prédication, je vous rassure, c'est le dernier. Dans le récit de la multiplication des pains, Jésus dit à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger. » Et dans notre récit, Jésus oblige les disciples à le précéder. La réaction des disciples, dans le premier cas, mais comment faire ? On n'a rien. Comment on va les nourrir ? On n'a pas l'argent, on n'a pas les ressources, on n'a rien. Dans notre récit, Jésus les oblige à le précéder, et puis il se trouve à ramer, littéralement, contre le vent contraire. Jésus, donc dans le récit des multiplications des pains, lève son regard vers le ciel, prononce la bénédiction, donc il prie son Père avant qu'il se passe ce qui va se passer. Dans notre récit, Jésus prie dans la montagne. Et puis, d'un côté, Jésus distribue la nourriture, et de l'autre, Jésus rejoint les disciples et les dépasse. Et puis, dans le premier cas, la foule est rassasiée, il y a même des restes. Dans l'autre cas, les disciples sont soutenus, rassurés, et la mer se calme. Alors, je ne sais pas si ça vous apparaît clairement ici, mais moi je trouve qu'on voit se dessiner un motif. Dans les deux cas, Jésus confie à ses disciples une mission qu'ils ne peuvent pas refuser. Ils n'ont pas le choix. Donnez-leur vous-même à manger ou traversez le lac. Pas de négociation possible. Et cette mission, dans les deux cas, elle paraît impossible à vue humaine, hein. Ils n'ont rien pour les nourrir. Et puis, dans l'autre cas, ils rament, hein. Ils rament contre un vent qui les pousse de l'autre côté. Mais Jésus, en union avec le Père, soumis à son Père, dans la prière, va prendre toute sa part dans la mission. Dans les deux cas, dans un cas, Jésus distribue la nourriture, dans l'autre cas, il rejoint carrément les disciples. Et au point que finalement, les résultats sont bien au-delà de ce que les disciples pouvaient imaginer. Dans un cas, la foule est rassasiée et il y a même des restes. Il y a plus de restes que ce qu'ils avaient au début, c'est particulier. Et dans l'autre cas, ben, les disciples sont rassurés, Jésus est de nouveau avec eux, et la mer se calme sans qu'il soit même question de leur donner, ça se fait tout seul. Alors, une question pour vous, est-ce que ce motif, cet enchaînement d'événements, ça vous parle, à vous qui êtes là ce matin? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver, dans quelque sorte, embarqué de force par Dieu pour aller dans une direction que vous n'aviez pas choisie? Pas forcément hostile, mais c'est pas là que vous seriez allé spontanément. Parfois, on se retrouve, voilà, emmené, ouais, de force, en tout cas, contre notre, ou sans que ce soit notre volonté initiale. Je pense que pour certains d'entre nous, cela peut prendre un sens extrêmement concret. Il se trouve en effet des situations où, si nous voulons rester fidèles à Dieu, Dieu nous demande d'accomplir des choses que nous n'aurions pas faites spontanément et qui nous semblaient même impossibles. Mais ce que ce récit nous dit et qui est vraiment encourageant, c'est que quand Dieu nous embarque comme ça dans ses plans, eh bien, il y a plusieurs promesses qui sont associées à ça. La première promesse, c'est que Jésus, Dieu, c'est la même personne, fait tout le travail. Lorsqu'il nous demande quelque chose, nous voyons dans ce récit que Jésus, non seulement il accompagne, mais en fait il collabore, et c'est même lui qui fait tout qui fait l'essentiel, hein. Malgré les apparences, quand il nous embarque dans une direction, nous n'accomplissons pas les choses seuls. Si nous regardons attentivement, c'est même lui qui fait tout, comme je l'ai dit, il a multiplié les pains, c'est donc lui qui rassasie. Il dit aux disciples de donner à manger, mais en fait, les disciples, ils ont été que la main-d'œuvre logistique, quoi. C'est Jésus qui a rassasié la foule. Et concernant la traversée du lac, il y a quelque chose de surprenant si on lit la conclusion dans la version de Jean. Jean 6, verset 21, il est dit, les disciples voulurent prendre Jésus dans la barque, mais aussitôt la barque touche à terre au lieu où ils allaient. C'est-à-dire que du moment où Jésus les rejoint, la traversée, elle est finie. C'est surprenant, n'est-ce pas? Le trajet est accompli d'un seul coup. Moi, je me souviens une anecdote. Une fois, lors d'un repas, quelqu'un a fait remarquer que le petit Théo de 4 ans, il avait participé à faire le gâteau qui est sur la table. Et du coup, on se tourne vers lui et on lui demande, c'est toi qui as fait le gâteau? Il hoche la tête un peu timidement. C'est toi qui l'as fait tout seul ou bien avec maman? Et d'une voix timide, le petit répond elle m'a un peu aidé. En fait, Théo, il avait simplement mis les mains dans l'eau pour laver les fraises. Mais dans son esprit d'enfant, c'est lui qui avait fait le gâteau. Et sa maman l'a un peu aidé. Mais en fait, c'est sa maman qui a fait tout le travail. J'ai le sentiment que c'est souvent comme ça avec Dieu. Lorsque nous faisons quelque chose pour lui, c'est en fait lui qui a tout préparé. qui a accompagné d'un bout à l'autre et qui est là pour nous encourager et nous faire passer le cap quand ça devient vraiment difficile, comme les disciples là, qui étaient vraiment en peine au milieu de leur lac. Et nous avons simplement tenu un petit rôle, le rôle obéissant du serviteur qui accepte cette mission, même sans forcément bien la comprendre, même sans forcément la maîtriser. Une deuxième promesse, une deuxième bonne nouvelle qui accompagne le fait de suivre Dieu dans ses plans qui nous dépassent, c'est de savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Ça paraît bête à dire, hein, mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. S'il nous embarque dans quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Et pour nous, c'est pas toujours évident de savoir pourquoi il nous appelle à faire ceci ou cela. C'est même pas évident de savoir pourquoi il fait appel à nous. Après tout, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et puis, les vents sont contraires. Alors quand on rame, ça n'avance pas. Pourquoi il ne fait pas simplement tomber la manne du ciel, ou bien il n'ouvre pas les eaux en deux, comme à l'époque de Moïse? Ce serait tellement plus simple. Mais non, Dieu sait ce qu'il fait. Avec nos 5 pains et 2 poissons, avec le vent contraire, il nous appelle quand même à le suivre. Ce n'est pas le plus efficace? C'est vrai. Tout comme cuisiner avec un enfant. Pourquoi donc cuisiner avec un enfant? Vous êtes à peu près sûr qu'il vous faudra plus de temps, qu'il y aura des vêtements à nettoyer en plus de la vaisselle, sans compter les risques de casse de vaisselle, les coquilles d'œufs dans la pâte, et j'en passe. Mais vous sentez bien qu'avec cet exemple, l'essentiel n'est pas là. Cuisiner, ce n'est pas pour avoir un gâteau parfait, ni pour le faire rapidement. Alors pourquoi on cuisine avec un enfant? Eh bien, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, n'a pas besoin de nous pour accomplir ses desseins. Et pourtant, il tient à ce que nous y prenions part. Pour la même raison que vous êtes heureux que le petit Théo salisse la table et ses vêtements. Vous l'avez ou... L'idée, c'est que Dieu veut vraiment approfondir la relation qu'il a avec nous faire grandir, en fait. Il n'est pas totalement évident de savoir pourquoi Jésus tenait à ce que les disciples nourrissent la foule au lieu de la renvoyer. C'est pas non plus évident de savoir pourquoi il fallait aller spécifiquement à Bethsaïda, maintenant, là, à cette heure tardive, et puis sans lui. D'ailleurs, l'objectif importe peu, puisque finalement, ils ne vont pas à Bethsaïda. Mais dans cette obéissance, les disciples ont découvert combien Jésus les aime, combien il les accompagne, combien ils peuvent compter sur lui. Il ira jusqu'à défier les éléments s'il le faut pour les rejoindre, là où ils en sont. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Quand Jésus dit « c'est moi », c'est en réalité plus proche du « je suis » que Dieu utilise pour se présenter à Moïse dans le buisson ardent. Par ce « c'est moi », Jésus se révèle, montre qui il est. Et on le constate, sa simple présence suffit à calmer les flots. Les disciples font l'expérience que même si Jésus était physiquement absent, Jésus veillait sur eux et il les accompagne. Même dans la nuit noire, au beau milieu d'un lac, avec des vents contraires. Alors en conclusion, nous aussi, frères et sœurs, gardons cette assurance. La vie chrétienne nous amène parfois à des décisions radicales, à des choix qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas ce qu'on aurait voulu. Mais réjouissons-nous que Dieu nous trouve dignes de participer à son œuvre. Acceptons de ne pas forcément connaître la finalité de ce qu'il nous demande. Mais avançons avec obéissance, avec fidélité. Qui sait si ce que vous traversez en ce moment n'a pas pour unique objectif de vous faire réaliser la présence du Seigneur à vos côtés? Vous n'atteindrez peut-être pas Bethsaïda, et cela importe peu, mais vous allez découvrir un peu plus, en marchant, qui est vraiment Jésus, à quel point il vous aime et à quel point il marche à vos côtés. Et lorsque vous toucherez terre ensemble, là où il ou lui l'aura décidé, vous accomplirez des œuvres encore plus grandes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.